Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, j'ai toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et notre invité de la semaine, à savoir Marie, l'outil runner. Salut Marie.
Salut Hermano, contente de te retrouver et merci de m'accueillir à nouveau.
Eh bah, c'est toujours un plaisir Marie. Je dois bien quand même revenir sur une chose parce que hier on a parlé de toi mais on n'a pas dit d'où on se connaissait, comment on s'était rencontré. Finalement, je crois qu'il y a une de nos connaissances croisées, Seb du podcast À côté de mes ponts, qui m'a envoyé un petit message un samedi matin en me disant hey, toi qui es au luxe, je viens d'interviewer Marie, elle fait un petit truc en courant et ce week-end elle fait étape au Luxembourg, fais-lui un petit coucou. Puis c'est comme ça qu'on a pris contact, qu'on s'est rencontré, qu'on a été courir ensemble. Donc tu m'as emmené un petit peu découvrir ton défi en fait, le type d'aventure dans laquelle tu te lançais. On en a pu en profiter pour parler pendant deux bonnes heures hein. Et puis il y avait Paul, mon entraîneur, qui nous accompagnait et c'était vraiment une superbe rencontre. Donc Marie, merci beaucoup d'avoir été disponible pour ça et puis de te rendre disponible aussi aujourd'hui, ça c'est top.
Toujours du plaisir d'avoir de la compagnie parce que au-delà de ça, mon tour du monde il est en solo, donc en solo ça veut dire quand même beaucoup de temps toute seule sur la route et hors de la route, donc moi je suis toujours contente, je papote beaucoup, j'aime bien papoter, parfois un peu trop bavarde, mais c'est toujours un plaisir.
Alors justement, on reviendra là-dessus peut-être sur l'épisode de demain où tu vas nous en dire plus sur ton périple, sur ton défi de tour du monde en courant. Moi je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce que tu nous disais hier, c'est-à-dire 2003, t'es en Grèce, tu découvres la course à pied et puis on te met au défi et tu cours ton premier marathon. Qu'est-ce qui se passe en toi après avoir couru ce premier marathon? Tu nous as dit aussi que tu avais découvert le triathlon en revenant après la Grèce en Écosse. Comment tu te lances dans le triathlon? C'est quand même l'essence même de ce podcast, devenir triathlète. On aimerait bien savoir comment t'es devenue une triathlète.
Et oui, donc il y a eu le premier marathon. Et le premier marathon, en fait, que j'ai couru, c'était à la fin de mon séjour de travail en Grèce. J'avais été posté juste un an, entre un an et demi en Grèce, c'était pas beaucoup, et j'avais fait ce marathon d'Athènes. Je crois il se tient au mois de novembre, je crois que c'est le dernier week-end de novembre chaque année, et je repartais en Écosse juste un mois après. Donc, et d'avoir couru ce marathon, c'était juste formidable parce que c'était la longue distance, c'était l'endurance et j'avais eu des sensations formidables tout du long. Donc j'avais pas eu le fameux mur, comme j'ai dit hier, quand on sait pas qu'il est là, finalement il y a pas de raison qu'il soit là. C'est juste des différents types de courses et des différentes énergies qu'on a au fur et à mesure de la course. Ça, je le conçois parfaitement, mais le fameux mur, moi, je le conteste formellement. C'est une construction de l'esprit. Bref, on pourra en reparler plus tard. Mais donc les sensations.
Donc tu cours pas avec une truelle et du béton.
Donc ces sensations étant super, quand je suis retourné en Écosse, moi, je continuais à courir tous les jours des petites distances et. Comme j'allais au boulot en vélo tous les jours, un jour, je crois que c'est un collègue qui m'a parlé d'un duathlon, mais moi, je savais même pas ce que c'était. Donc, je suis allé faire un duathlon. Donc, j'ai mis le vélo dans la voiture et j'ai fait run, bike, run. Je trouvais ça super. C'était vraiment... Et encore une fois, hein, la naïveté du débutant qui sait pas du tout si on doit avoir un certain rythme, si on doit dépendre. Moi, je suis allé à fond tout le temps. C'était juste le plaisir de faire cette course. Et puis, donc, c'est là où j'ai rencontré des gens qui faisaient ça, qui m'ont expliqué qu'il y avait aussi des triathlons, et je suis rentré dans le circuit du triathlon un peu comme ça, tout à fait par hasard, en rencontrant des gens.
Ceci dit, c'est le duathlon, c'est souvent un bloc tout le temps, non? Enfin, c'était quoi comme distance que tu faisais?
C'était, si je me souviens bien, c'était 5 km de course, 20 km de vélo, 5 km de course. Donc oui, c'était pas, pas de l'endurance, il n'y avait pas forcément besoin de... Mais bon, j'ai appris après qu'il y avait des gens qui avaient des stratégies de course et ça m'était complètement étranger alors à l'époque.
Donc t'as découvert qu'il y avait des gens qui avaient des stratégies de course, comme t'as découvert qu'on te parle de mur, qu'on te parle de gel, qu'on te parle d'hydratation, de cachet de sodium et tout ce genre de choses.
Exactement, tout ça m'est un peu tombé dessus. Mais bon, après on fait le tri, hein. On n'est pas tenu à ça. Mais c'est vrai que j'étais moi, ce qui m'a surtout surprise, c'est que je trouve qu'il y a une uniformité d'informations. Et alors toi, alors peut-être avec ton podcast, peut-être avec le podcast À côté de mes pompes et d'autres podcasts, vous donnez un peu un autre point de vue, et ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'aime bien participer à ces émissions, parce que quel que soit le magazine de running que j'ouvre en France ou dans les autres pays, je vois la même chose, j'entends les mêmes choses, j'entends toujours parler des mêmes problèmes qui n'ont pas à être des problèmes, mais quand on vous dit que c'est un problème, ça devient un problème. L'hydratation, la nutrition,
et je trouve que c'est un peu ce qu'on voit beaucoup avec les chaussures, notamment. Enfin, on en a déjà parlé sur ce podcast avec le minimalisme, etc. Et en fait, finalement, c'est un peu créer un problème, alors que à la base, on courait pieds nus et on courait très bien pieds nus.
On pourra parler de mes chaussures qui font plus de 3000 km par paire. Je pense que c'est pas quelque chose qu'ils ont envie d'entendre nécessairement, parce qu'on préfère vous dire qu'il faut changer vos chaussures tous les 500 km.
Ouais. Pourrait
vous
dire on que pourra, on pourra en parler aussi,
salons, ouais. Etc. Il y a beaucoup de sujets.
Non, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est les chaussures avec lesquelles je suis le mieux. C'est mes chaussures qui ont effectivement peut-être plus de 1000 km. Et je suis pas censé courir avec, mais au final, c'est celles dans lesquelles je me sens le mieux, effectivement. Donc, c'est beaucoup une question de ressenti, finalement.
Je cours sans blessure avec aussi, des chaussures qui ont 3000 km à chaque fois. Voilà.
Bah, justement, dans quelques semaines, on aura l'occasion d'échanger avec Blaise Dubois, le fondateur de la Clinique du Coureur. Et je pense qu'il aura son avis aussi à nous donner là-dessus, sur le minimalisme, sur l'usure des chaussures, sur les attaques talons, sur les gros amortis. Je tease un peu, mais je l'ai déjà reçu dans le podcast de Nakan. Et justement, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde tous ensemble. Donc Marie, tu nous dis, tu découvres le triathlon par hasard, au hasard d'une rencontre, d'un échange, d'un partage avec d'autres sportifs. Tu te lances évidemment dans l'aventure. Tu nous as dit hier que tu as évolué un peu sur le circuit Half Ironman, puis sur le circuit Ironman. T'as quoi comme souvenir de ton premier Ironman, donc ton premier full, ton premier 3-8, 180 et 42?
Oh mais le souvenir, c'est un plaisir immense tout du long en fait. Pour moi, c'était le début des... C'était l'aventure avec le sport, en fait, parce qu'on est sur la ligne de départ, on n'a aucune idée de comment les choses vont se passer, de comment on va se sentir. Et pour moi, ce qui m'intéresse dans la longue distance, et aussi en parallèle dans ce tour du monde que je fais en ce moment, mais qui m'intéressait dans le triathlon longue distance, c'est quel est le rythme qui va s'installer. Parce que ça va pas être linéaire, c'est pas possible que ça soit linéaire. Vous allez pas être bien tout du long, et en même temps, vous allez pas être mal tout du long non plus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est quand t'as le petit coup de fatigue à un moment donné, c'est de... Ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à avoir la certitude que, bon, de toute façon, c'est que passager. Tu peux pas te sentir mal jusqu'à la fin, c'est pas possible. Parce que les équilibres, l'équilibre, c'est ce qui se passe entre deux déséquilibres, finalement. Donc, t'as des moments où tu te sens mieux, que tu te sens trop bien, presque. Tu vas courir trop vite parce que t'as un regain d'énergie, t'as quelque chose. Et puis, il y a des moments où ça va être moins. Entre tout ça, tu trouves un équilibre de course. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de naviguer ça et d'avoir la certitude derrière, dans la tête, la petite voix qui te dit « c'est pas grave, c'est ça la course, c'est justement ça l'intérêt de la course. Si c'était linéaire et que j'étais bien tout le temps, ça m'intéresserait pas, en fait. »
À partir du moment où on parle de longue distance, quand même, hein, parce faut quand même préciser que sur du court, en général, on est mal tout le temps.
Je suis tout à fait d'accord. Là, on parlait vraiment, et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le format Ironman et puis le format là, en fait. C'est ces formats de course qui sont assez longs, bien sûr, oui.
Alors, le triathlon, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, que ce soit au niveau de ton mode de vie, tes habitudes, enfin, de manière générale
Alors, j'allais dire beaucoup de choses. En fait, la course à pied, parce que c'est quand même ça, moi, je suis partie de la course à pied, a changé beaucoup dans la mesure où j'avais un travail. Donc, après la Grèce et le retour en école, je suis partie sur un boulot où j'étais en 100% travel. C'est-à-dire que j'avais plus de maison. Et je passais 3 mois dans chaque pays. Je faisais partie d'une équipe, on était une douzaine et on faisait que ça. On allait de pays en pays, donc 3 mois où on passait dans la capitale du pays. On faisait pas du tourisme, hein, on travaillait vraiment, on était auditeurs.
Bien sûr. Et donc tu vivais à l'hôtel alors ?
Exactement, on vivait avec deux valises. On vivait dans des chouettes hôtels, hein, dans les Hilton et les Radisson. Mais partout à travers le monde, c'est-à-dire 3 mois au Nigeria, 3 mois en Russie, 3 mois en Autriche, 3 mois en Italie, etc. Je vous les passe. Mais donc moi, le running, ce que ça me permettait de faire, c'est que moi, tous les jours, avant d'aller au boulot, avant que tout le monde soit levé, moi, je mettais mes baskets et j'allais découvrir. J'ai découvert toutes les villes d'Europe et du monde grâce à ça. Même au Nigeria, qui est vraiment pas un pays où on peut sortir, c'est pas recommandé de sortir sans son garde du corps armé, par exemple. Et ben, avec mes godasses, j'étais safe, par exemple. Avec mes chaussures de running, j'étais safe. Et ça, pour moi, c'était formidable.
Tu courais certainement plus vite qu'un militaire avec son FAMAS et tout son matos, non?
Non, je sais pas, mais je pense que c'était la surprise de voir, en fait, il y a un côté très... En fait, le running m'a permis de m'ouvrir beaucoup beaucoup plus sur le monde et beaucoup de découvrir beaucoup mieux tous les pays que je traversais et dans lesquels je bossais. Ça m'a donné un point de vue sur tous ces endroits-là unique.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, quand je voyage, typiquement, que ce soit un city trip ou un voyage pour le business ou autre, systématiquement, j'ai une paire de baskets avec moi et ça me permet d'aller découvrir tout simplement le coin où je suis. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Dans certains cas même, je loue un vélo et ça, c'est encore mieux parce que j'explore d'autant plus. Donc ça, vraiment, j'adore. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis que, en fait, quand tu mets tes baskets et que tu pars courir, finalement, tu es, je trouve, plus en sécurité que si tu te balades avec ton appareil photo en mode touriste, tu vois. Vraiment, parce que quand tu cours, bah, t'as une confiance en toi, tu t'arrêtes pas à chaque coin de rue pour te demander par où tu vas, t'as pas forcément cette peur ou cette crainte de l'insécurité, t'as l'air d'être plutôt confiant. Et en fait, les gens sont limite surpris. Moi, ça m'est arrivé, en fait, enfin, j'ai vécu en Colombie pendant plusieurs années, et en fait, de débarquer avec mon VTT ou à pied dans l'équivalent des favelas là-bas, à des heures complètement improbables, 5-6 heures du matin. Et bah, c'est des trucs, je me sentais pas en danger parce que justement bah, j'étais dans une situation qui était tellement improbable que je me dis bah, en fait les gens ils vont pas venir m'agresser parce qu'ils ont à peine le temps de me voir passer, enfin ils comprennent pas, tu vois. Alors que si c'est une bande de touristes qui sont là en train de marcher avec tu vois en tongs, bah forcément oui, ça va attirer l'attention. Et donc je te rejoins tout à fait sur ce sentiment de sécurité quand tu mets ta paire de basket et tu vas courir, même si tu es dans des pays qui sont réputés pas forcément très safe, quoi.
Exactement, et le moins on a sur soi, le plus safe on est. Moi, quand je partais au Nigeria, j'avais un t-shirt, un short, une paire de baskets. Il n'y avait pas de boucle d'oreille, il n'y avait pas de collier, il n'y avait pas de bracelet, il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de casquette, il y avait zéro accessoire. J'avais juste, et c'était rigolo, j'avais une bouteille d'eau à la main parce que quand même il fait chaud au Nigeria. Et quand je courais, donc les gens étaient tellement surpris parce qu'ils voyaient jamais un blanc tout seul sans garde du corps, ça n'existait pas. Personne ne se balade dans les rues de Lagos, surtout pas les blancs. En plus, il y avait beaucoup d'enlèvements à l'époque.
Et qui plus est, une femme en plus.
Exactement. Donc, il voyait une petite bonne femme d'1m60 qui se baladait en courant avec une bouteille d'eau à la main. Et ce qui était génial, moi, c'est des souvenirs super. C'est les gamins qui se mettaient à courir à mes côtés. Alors, ils étaient pieds nus, machin. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était ma bouteille d'eau. Donc, bon, je leur donnais toujours ma bouteille d'eau, mais c'était tout ce que j'avais, si tu veux. Et ils le savaient en me voyant. Il n'y avait rien d'autre à prendre sur moi. Donc, j'étais pas du tout une cible pour aucune forme d'agression ou quoi. C'était très. Je trouve qu'il y avait un espèce de message de paix, un message de non-agressivité, on va dire, de faire ça.
Et en même temps, quand tu fais ça, enfin quand tu fais ton petit jogging du matin, justement, c'est pas une balade. Enfin, tu vois, si t'es en mode balade et je découvre, enfin voilà, alors que là t'es dans l'action, quoi. Alors que et justement, quand t'es dans l'action, bah, ça change complètement la dynamique, quoi.
On est sur la même longueur d'onde, on a apprécié. Donc et moi, c'était ça. Pour moi, la course à pied, c'est ça qui a changé ma vie. Plus que le triathlon est venu au-delà, ça m'a apporté une autre dimension. Le triathlon, ça m'a apporté un peu plus de fun, parce que c'est vrai que courir, et puis j'aimais bien le vélo, donc ça m'a permis d'allier plusieurs choses que j'aimais bien. Mais ce qui a fondamentalement changé la manière dont je vivais, c'est vraiment la course à pied à l'origine.
Et parce que finalement, le triathlon, c'est quand même d'autant plus niche. Et je pense que quand tu rencontres des triathlètes, bah, en général, t'es d'autant plus sur la même longueur d'onde qu'avec des coureurs, parce qu'après, bon, des coureurs, tout le monde est un petit peu coureur à un moment ou l'autre dans sa vie. Et je trouve que le côté triathlon, ça rapproche énormément. Et quand tu dis c'était quelque chose de plus fun, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a joué aussi pour toi, le côté communautaire qu'on va retrouver dans le triathlon?
Tout à fait. Et puis, pour continuer sur la liste de l'événementiel sportif, donc qui aussi m'incluait dans cette communauté sous un autre angle, quand j'ai quitté la Grèce où j'avais fait créer cette compagnie qui organisait l'événementiel privé sportif dont le triathlon en Grèce, je suis partie à Singapour. Et en fait, à Singapour, je bossais dans l'événementiel sportif privé aussi. Et j'ai créé le premier demi-Ironman et Ironman, donc en label officiel, de Bintan en Indonésie, une petite île tropicale qui existe toujours maintenant, le demi-Ironman de Bintan. Donc en fait, d'être aussi du côté organisateur et du côté participant, tu découvres en fait une communauté qui n'est pas très grande en fait, surtout sur le circuit Ironman et demi-Ironman, entre les athlètes un peu élites, entre les coureurs qui font ça, c'est pas quand même anodin de faire un triathlon, un Ironman, il faut quand même du matériel, il faut quand même un budget pour voyager, pour s'entraîner. Et donc en fait, c'est une très petite communauté, et donc il y a un sentiment d'appartenance, c'est très confortable en fait.
J'essaye de rebondir parce que je bois vos paroles à tous les deux, je vois que le match est fait, donc j'essaye de rebondir comme je peux. En plus, il y a un petit lag, donc c'est pas facile. Tu découvres le triathlon, quand tu pars en Grèce, tu montes cette société d'événementiel qui va faire la promotion du triathlon, puis tu pars à Singapour, toujours dans une société d'événementiel, et qu'est-ce qui t'amène doucement à te dire, bah Ce matin, je vais courir, puis demain, puis après-demain, puis encore. Et puis, un jour, si j'allais faire un tour du monde.
C'est pas comme ça que la réflexion s'est faite. La réflexion, elle n'est pas partie de là. La réflexion, elle est partie de moi depuis toujours. Hein. Vraiment, c'est chevillé au corps. J'ai toujours su que j'allais faire le tour du monde. Mais c'était, je ne savais pas comment. Et donc, une fois que j'ai eu le sport vraiment dans les pattes, hein, triathlon et run, ça continuait de me titiller toujours. Mais pour moi, le running, c'était vraiment une évidence, en fait. Quand j'ai rayé, parce que je voulais pas le faire en vélo, je trouve qu'en vélo, on va beaucoup trop vite. Je voulais trouver un bon équilibre, je voulais trouver le rythme qui était bon pour moi, pour découvrir le monde, pour tout voir, pour tout sentir, pour tout goûter. C'est tous les sens qui sont impliqués quand on court autour du monde. Là, ce matin, je courais en Grèce. Vous pouvez pas savoir les odeurs qu'on a avec les bougainvilliers qui sont en fleurs, avec tout ça. Moi, c'est tous les sens. Et le soir, j'arrive quelque part, je mange les produits locaux. C'est tout. Et donc, je voulais être au bon rythme pour tout voir. Et pour moi, le vélo, c'était trop rapide. Donc, la course s'est un peu imposée. En plus, j'avais tous mes souvenirs de voyage où la course était vraiment l'élément qui me faisait visiter et découvrir plus en profondeur les villes où j'étais. Et puis j'avais envie de prendre le temps, en fait. Les gens, ils courent parce qu'ils sont pressés, mais moi, j'ai voulu courir pour prendre le temps, ce qui n'est pas forcément banal, mais je trouvais que c'était le bon moyen. C'était le rythme et la hauteur qui me correspondaient. Voilà, donc c'est plus partie du running, en fait, et c'est plus partie de l'idée de faire le tour du monde. Après, oui, j'aurais pu le faire en vélo, mais encore une fois, je trouve que ça va trop vite. On n'a pas le temps d'attraper les regards, on n'a pas le temps de sourire à quelqu'un, on n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'il y a un chien au bord de la route qui commence à venifler les mollets. On n'a pas le temps de tout ça. Quand on est en vélo, ça va un peu vite pour moi.
On va revenir dessus demain, sur comment est-ce que l'idée, je vais faire un tour du monde un jour, ah, tiens, la course à pied, le tour du monde, deux trucs qui me titillent, je vais peut-être y aller comme ça. Comment on passe de cette idée-là à tout mettre en place et puis à commencer à courir.
Super, merci Armano.
Et
merci
à demain. Super, à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.